À la une de ce grand forum pour ce jeudi 9 janvier, une campagne de testing auprès de grandes entreprises françaises révèle une discrimination généralisée à l'égard des candidats d'origine maghrébine. Le gouvernement doit-il révéler le nom de ces entreprises? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez au 01 40 33 9000. Pour répondre à cette question, Facebook France Maghreb 2, Twitter Le Grand Forum FM2. Le brillant chef cuisinier candidat à Top Chef France et Monde Arabe sur MBC, meilleur apprenti de France, Mohamed Si Abdelkader sera avec nous et nous dévoilera ses secrets dans les rendez-vous d'Anna, le premier rendez-vous de l'année à partir de 17h. Sans oublier un petit tour du côté de Zapping pour ne rien louper de l'actualité. C'est le sommaire du Grand Forum qui vous emmène jusque 18h. Soyez les bienvenus. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum jusque 18h. Ravi de vous retrouver, il est 16h26 et vous êtes bien en direct sur votre radio. Comme chaque jour en ce jeudi, un petit peu particulier, un petit peu difficile. Oui, c'est encore jour de manifestation aujourd'hui à Paris en ce 9 janvier. Beaucoup de monde, on essaiera d'avoir notre ami Philippe Bouriaki qui se trouve sur place, qui a rencontré d'ailleurs pas mal de monde au cours de la manifestation. Pour aller voir les lives sur la page Christophe Le Grand Forum, il est en direct sur la page. La vidéo, la manifestation en direct, donc voilà. Et tout à l'heure, nous recevrons dans un tout autre registre un monsieur que vous allez découvrir, qui était candidat Top Chef pour cette émission célèbre, évidemment. Il nous révélera ses secrets, amis, demoiselles, femmes, dames, messieurs, amateurs de cuisine et de bons petits plats. Rendez-vous tout à l'heure à 17h et vous pourrez évidemment lui poser vos questions. C'est le meilleur apprenti de France d'ailleurs, ce qui est pas rien. À découvrir donc dans quelques instants sur France Maghreb 2. Pour l'heure, un sujet, c'est vrai qu'on a pas trop évoqué dans les médias français, il était intéressant de le faire aujourd'hui, et au-delà du sujet, essayer de recueillir vos réactions. Une campagne de testing auprès de grandes entreprises françaises révèle une discrimination généralisée à l'égard des candidats d'origine maghrébine. Le gouvernement doit-il révéler le nom de ces entreprises? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle je vous propose de répondre maintenant au 01 40 33 9000. En attendant, évidemment, vous pouvez répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF Le Grand Forum FM2, pardon. Et vous êtes en grande majorité à dire oui, 97% à dire oui. Alors, c'est 20% de chance en moins d'obtenir une réponse d'un recruteur pour un candidat d'origine supposée maghrébine par rapport à un candidat au patronyme franco-française. Les grandes entreprises françaises sont à nouveau épinglées. Le gouvernement ne semble pas pressé visiblement de publier les noms des sociétés concernées. Jusqu'à 20% de chance en moins de recevoir une réponse pour un emploi si l'on s'appelle Yasmina Bedaoui plutôt que Amandine. Voilà, ça c'est des chiffres qui sont voilà éloquents. C'était pourtant une promesse de campagne, on s'en rappelle, de Emmanuel Macron, président de la République, promesse réitérée lors de son discours de Tourcoing en novembre 2017 sur la politique de la ville. Le président de la République s'engageait alors devant un parterre d'associations de quartiers populaires à poursuivre les opérations de testing, à pénaliser les discriminations à l'embauche et à rendre public les noms des entreprises les plus délinquantes en la matière, faisant allusion évidemment à la pratique anglo-saxonne name and change. 2 ans plus tard, une grande campagne de testing a bien été lancée. Elle s'est achevée dans la plus grande discrétion. Ces résultats sont sur la table du gouvernement depuis plus de 8 mois sans qu'aucune communication ne soit pour le moment prévue. Mais l'équipe de chercheurs mandatée pour conduire cette étude eh bien publie aujourd'hui ces résultats que France Inter s'est révélé avec donc ces chiffres absolument incroyables, 20% de chance en moins de recevoir une réponse lors d'une candidature à une offre d'emploi et 30% de chance en moins d'être recontacté après une candidature spontanée. Les résultats de cette grande campagne de testing donc menée entre novembre 2018 et janvier 2019 eh bien sont particulièrement éloquents. À la demande du gouvernement, mieux vaut s'appeler Avandine, comme je disais tout à l'heure, que Yasmina, ou Florian plutôt que Mourad, lorsqu'on cherche du travail dans une grande entreprise. Au total, 17 600 candidatures et demandes d'informations fictives ont été envoyées à 103 grandes sociétés dans 6 régions françaises, mais l'exécutif, qui a ciblé 40 entreprises sur les 103 testées, ne souhaite pas donner de nom aujourd'hui, mais les chercheurs ne peuvent donc dévoiler les entreprises épinglées par leurs tests. Contactés par cette même Ranier, le Radio France Inter, le ministère du Logement et de la Ville en charge de ce dossier, dit vouloir travailler d'abord avec les entreprises fautives avant de décider de la pertinence de faire du name and change. Compréhension donc de la fédération de la maison des potes par exemple, qui se souvient de la promesse du président il y a 2 ans, une opération testing a été financée par l'État et on nous donne pas les résultats. Qu'est-ce qui se passe? La notoriété des entreprises était peut-être dangereusement menacée. Elles sont tellement grandes qu'on ne peut pas se permettre de les menacer. Qu'est-ce qui fait que ce name and change qui avait été promis, annoncé, martelé, n'est plus à l'ordre du jour? Voilà autant de questions posées autour de l'intérêt de ces opérations. C'est justement la communication de la puissance publique sur ce sujet pour redonner espoir à ceux qui sont victimes de discrimination et ceux qui se sentent évidemment abandonnés. Sur les 103 entreprises testées, une quinzaine discrimine plus massivement que les autres. Il s'agit de sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à la médiane, plus attractive. Elle suscite un nombre plus élevé de candidatures pour chaque poste, pardon, ce qui pourrait expliquer une exposition au risque de discrimination plus élevé. L'étude s'est aussi intéressée à l'impact du lieu de résidence, quartier prioritaire politique de la ville, sur la réception des candidatures dans les grandes entreprises. Impact moins significatif quand même, faut le signaler, que le critère de l'origine. Présumée nord-africaine, évidemment. La ministre du Travail, on s'en souvient, et pour terminer, Myriam El Khomri, c'était sous Hollande, avait mené la première campagne gouvernementale de testing. Elle avait publiquement, elle, dénoncé, on s'en souvient, Courte Paille et Accor Hôtel pour donc leur pratique discriminatoire. Voilà un petit peu le résultat et le tour de cette étude. Et on s'aperçoit donc que cette campagne de testing a été eh bien lancée. Les résultats sont sur la table du ministère et pour l'heure, le gouvernement ne souhaite pas communiquer. Pourquoi autant de questions? Alors, évidemment, est-ce que le gouvernement français doit révéler le nom de ses entreprises? Vous êtes en grande majorité à dire oui. Et la question que je vous pose, moi, est-ce que vous avez été, vous, victime? Et de quelle manière vous avez été victime de discrimination à l'embauche? Ça peut aussi être discrimination pour trouver un logement. Racontez-nous, vos témoignages sont évidemment les bienvenus. Je les attends avec impatience, parce qu'on a besoin d'en parler, parce que il est important maintenant d'en finir avec ce type de pratique. Pourtant, le président s'était engagé, on attend toujours. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Allô, bonjour. Allô. Bon, 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler, parce que votre avis nous intéresse comme d'habitude, et vous continuez de voter sur Facebook France Maga 2, sur Twitter, le grand forum FM2, et vous nous appelez, bien sûr, 01 40 33 9000. 140 entreprises, une quinzaine d'entreprises très gravement concernées par la discrimination. Elles ont évidemment un chiffre, c'est des très très grandes entreprises, d'où donc évidemment peut-être la gêne du gouvernement de pouvoir les nommer nommément en fait. Voilà. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour. Voyez ton prénom.
Salim de l'Essonne.
Salim de l'Essonne. Comment ça va? Bonne année, mon Salim.
Bonne année toi aussi.
Alors on parle de discrimination à l'embauche. Est-ce que tu en as été victime?
Bah, il n'y a pas qu'à l'embauche des origines aussi. Il y a aussi à l'embauche des personnes handicapées également.
Oui, absolument.
Parce que le problème, c'est que en France, c'est que il y a 6% de personnes handicapées qui sont embauchées.
Ouais.
Et malheureusement, là, l'État français ne fait pas d'effort pour les entreprises françaises préfèrent payer des amendes plutôt qu'embaucher des personnes handicapées. La preuve, c'est que moi-même, j'en fais partie. Je fais partie de ces personnes-là qui sont sans emploi depuis. Moi, je suis sans emploi depuis 2 ans.
Ah oui. Ah,
quand
même.
Donc, ça fait 2 ans. Donc, j'étais pour ceux qui connaissent, là, j'ai fait une formation à l'AVH, donc l'association Volontaire à 8.
Oui.
Et j'ai fait 2 ans de formation. Et ça fait 12 ans que je suis inactif, en fait.
D'accord.
Donc, et je trouve que c'est pas normal que.
Quand vous faites vos recherches d'emploi, Salim, quelle est la réponse du recruteur quand on lui signifiait?
Justement, là, j'ai envoyé un CV, je l'ai envoyé au moins plusieurs fois.
Ouais.
C'était du côté d'une société qui se trouvait dans le 19e. J'ai jamais eu de réponse.
J'ai envie de dire que vous êtes malheureusement peut-être aussi victime d'un double handicap, c'est-à-dire que vous avez votre propre handicap et vous avez aussi bien cette origine. Salim, ouais. Vous appelez Salim. Alors c'est évidemment deux fois plus de difficultés pour trouver un travail. Effectivement, vous avez raison de le dire, que les grandes entreprises, et peut-être que là aussi les services publics ne jouent pas aussi le fonctionnariat, jouent pas forcément le jeu non plus en embauchant pas forcément le quota de personnes handicapées qu'ils devraient. Maintenant, il faut aussi dire, pour être concret aussi, dans ce genre de dénonciation, il y a aussi un problème d'adaptation. Pour ce qui est d'adapter un poste pour une personne handicapée, ça met des plombes. Et quand une entreprise a besoin de quelqu'un, eh bien c'est pour tout de suite. Et le fait de faire adapter un poste, ça prend des mois et l'entreprise n'est pas forcément capable d'attendre. Voilà.
Et donc c'est pour ça qu'ils préfèrent prendre des gens
qu'ils soient tout de suite productifs, évidemment, et donc ils préfèrent en l'occurrence payer l'amende, effectivement. Merci Salim pour le témoignage en tout cas, et à très bientôt, et bon courage pour la suite, en espérant que cette période se termine et que tu puisses évidemment très vite retrouver un emploi. On parle de discrimination autour de cette campagne de testing donc qui a été lancée par le gouvernement. Campagne qui a été menée fin 2018, début 2019, une concerne une 140 entreprises. A priori une quarantaine d'entreprises sont quand même bien remarquées pour faire et pratiquer de la discrimination à l'embauche suite à une origine en particulier maghrébine. 20% de chance de moins de trouver un travail lorsqu'on s'appelle Yasmina, Mourad, que Amandine ou Florian. Ça c'est une réalité, c'est autour de cette campagne qui a été menée. Et pourtant, les noms des entreprises sont connus, sont sur le bureau du ministère, je le disais tout à l'heure, et le gouvernement ne souhaite pas pour l'instant publier la liste. Alors est-ce qu'elle doit publier la liste? Évidemment, c'est la question que l'on vous pose, que l'on s'en pose aussi. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Kassou, bonjour à tous les éditeurs.
Bonjour, quel est ton prénom?
Saïd.
Saïd, tu nous appelles d'où Saïd?
Vous appelez 94.
Très bien Saïd. Alors, la discrimination à l'embauche, est-ce que tu connais, est-ce que tu en as été victime?
J'en connais pas mal, mais il y a aussi quelque chose à rajouter. Il y a aussi la discrimination même au sein des sociétés. C'est encore le plus répandu.
C'est-à-dire, Saïd, explique-nous.
Vous pouvez être dans une grande entreprise et vous allez, le fait de subir la discrimination, vous risquez de ne pas évoluer dedans, quoi.
Ah, vous voulez dire pour un plan de carrière évolutif?
Ouais.
Ouais. C'est vrai que ça pose problème.
C'est le plus fréquent. Parce que quand vous avez subi, par exemple, une discrimination à l'embauche, vous partez après. Donc, ça passe. Vous avez l'espoir de trouver autre chose.
Ouais.
Mais le plus dur, c'est celui que vous vivez au quotidien.
Ouais, effectivement.
C'est ça, il y a ça aussi. Il faut le lier, parce que on parle que de la discrimination à l'embauche, parce que...
Bah, c'est un point de départ, en fait, Saïd. Après, pour ce qui est du reste, évidemment, on peut aussi parler de la discrimination pour trouver un logement. Ça aussi, ça existe bel et bien. Il y a eu des études de menées là-dessus. Mais là, on parle de discrimination à l'embauche autour de ce rapport qui est sur le bureau du ministre du logement, et qui n'en fait rien. C'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas, elle souhaite pour l'instant discuter avec les entreprises concernées pour les remettre dans le droit chemin, dit-elle, et avant de les nommer. Et Myriam El Khomri, elle avait joué le jeu, elle avait publié ce rapport dans lequel elle avait nommé Courtepaille, par exemple, et Accor Hôtel. Voilà, donc il y a des sociétés, des très grandes sociétés qui sont concernés et qui pratiquent ce genre de discrimination. Alors, mon cher Saïd, tu voulais rajouter quelque chose?
Juste moi, ce que je veux rajouter, c'est un sujet politique, parce que à l'échelle d'en bas, on ne peut rien faire contre ça.
Merci, mon Saïd. Merci à toi en tout cas, et merci de ton appel. À bientôt. 01 40 33 9000. Vos témoignages, on les attend et ils sont importants. On file à Paris. On est avec Philippe Boyaki là, qui est en pleine manifestation ce 9 janvier. Salut mon Philippe. Philippe. Oula, il y a un drôle de bruit là. Philippe, tu m'entends ou pas? Philippe Boyaki.
Allô.
Oui. Voilà mon Fifi, comment ça va?
Bonjour la radio, bonjour les auditeurs.
Bonjour Philippe.
Écoute, quand ça se passe de façon agréable, la pluie vient de s'inviter à cette manifestation, mais réellement, je ne sais pas quels vont être les chiffres de la préfecture, mais je peux vous assurer qu'on est au-delà de ce que nous avons vécu le 5 décembre dernier. Pour info, pendant 2h30, les gens n'ont pas pu bouger de République. J'ai pu m'extraire en passant par des rues adjacentes et parallèles. Et donc là, je suis normalement dans le premier tiers du cortège et je n'arrive toujours pas à voir le début du cortège tellement qu'il y a du monde. Les slogans sont simples, c'est retrait définitif de cette réforme, les manifestants et les manifestantes venues nombreuses n'en veulent pas. Le mot d'ordre est clair, cette réforme est mauvaise, il faut la retirer.
Très bien, mon Philippe. Alors, t'as rencontré beaucoup de monde, d'ailleurs, hein, des interviews qu'on peut voir sur les pages Facebook de France Maghreb 2, notamment. Daniel Simonet, Alexis Corbière, François Ruffin, Jadot, ils sont tous venus côté politique ?
Pas tous venus ? Non, malheureusement, personne de La République En Marche, personne de la droite, personne du Rassemblement National, personne de l'UDI, personne du Modem et personne du Parti Socialiste, aussi dingue que ça puisse être, alors que Olivier Faure, avec... Fabien Roussel et Julien Bayou ont fait le tour des dépôts pour apporter leur soutien. Les socialistes ont déserté, ainsi que la CFDT. Aucune banderole, aucune affiche, aucune pancarte, aucun militant. Ceci n'est pas inquiétant pour les manifestants ici. Ils sont bien clairs, bien déterminés. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des retraités qui sont venus en solidarité pour dire non. Ceci est mauvais pour nos enfants et BlackRock ne passera pas.
Comment se comporte la police, mon Philippe ?
Pour l'instant, dans le premier tiers, en tout cas, tout est cordial. J'ai eu des infos via des collègues indépendants. En tout début de cortège avec les gilets jaunes, il y a eu quelques petites frictions par-ci par-là, mais rien d'inquiétant, rien de méchant. Donc nous, on est en train de remonter le plus rapidement possible la tête du cortège pour voir effectivement comment ça se passe devant. Mais depuis quelques vols visiblement sur les CRS. Mais globalement, c'est bon enfant. Je n'ai pas vu, mais je vous dis, je suis encore loin de la tête du cortège. Alors que je suis remonté sur des rues parallèles à une vitesse quand même assez rapide. Il y a vraiment énormément de monde. Je tablerais sur plus de 300 000 personnes, mais ce n'est que mon estimation. Et d'ailleurs, pour être bien précis, allez sur la page de France Maghreb 2 sur Christophe Le Grand Forum. Vous verrez nos lives et vous verrez le nombre qu'il y a. Je pense que ça vaut tous les statistiques ou tous les cabinets d'analyse que je ne vois pas sur le terrain en tout cas.
Merci mon Philippe et fais attention évidemment à toi pour cette manifestation et les lives à suivre sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum. Salut mon Philippe.
À tout à l'heure
effectivement. On repart du côté du standard avec Sofiane qui est avec nous. Bonjour Sofiane. Sofiane ? Ah bah il est parti mon Sofiane. Bon bah qui nous rappelle en tout cas 01 40 33 9000 rappelle que l'on parle aujourd'hui de discrimination autour de cette étude campagne de testing faite et réalisée auprès de 140 entreprises et beaucoup d'entreprises sont concernées par la discrimination pratiquée à l'embauche. 20% de chances de moins d'obtenir une embauche lorsqu'on s'appelle Yasmina Mourad que Amandine et Florian. Ça c'est les chiffres qui sont là, ils sont éloquents. 20% de moins donc de pouvoir être embauché sont les chiffres que le gouvernement a en sa possession. Le nom de ces entreprises doit-il justement révéler le nom de ces entreprises? C'est la question que l'on vous pose. Vous êtes 97% à dire oui hein, sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter Le Grand Forum FM2. Alors nous appelons 01 40 33 9000 pour nous dire aussi si vous-même vous avez été victime d'une quelconque discrimination. Alors, quand on parle de discrimination, c'est discrimination due à l'origine maghrébine en particulier. Voilà, vous êtes maghrébin. Effectivement, c'est plus compliqué pour obtenir un rendez-vous, pour un travail. Lorsque vous envoyez un CV, c'est encore plus compliqué. Lorsque vous cherchez un logement, là aussi, c'est difficile. Et pourtant, le président de la République, dans un discours prononcé en novembre 2017 à Tourcoing, s'était engagé à y mettre fin, ou en tout cas, à essayer de s'y intéresser. Allô, bonjour. Allô. Allô, une fois, deux fois. Bon, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour continuer de répondre à cette question. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour ce faire, vos témoignages qui nous intéressent, et sur Twitter et Facebook pour voter. Et en même temps, vous le savez, nous sommes avec Philippe Boyacki qui est en direct de la manifestation du 9 janvier aujourd'hui à Paris. Beaucoup, beaucoup de monde. Allô, qui est avec nous?
Allô, bonjour.
Bonjour monsieur, quel est votre prénom?
Abdelrani.
Abdelrani, vous nous appelez d'où c'est Abdelrani?
Moi je suis de Paris.
De Paris, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Abdelrani?
Moi, je suis chargé d'affaires dans les travaux publics.
Chargé d'affaires dans les travaux publics. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, sur la discrimination, Abderrani?
Sur la discrimination alors, justement, pour le rapport, donc, par rapport au rapport, c'est une commande du gouvernement.
Oui, absolument.
Vous avez bien compris, hein?
Oui.
Donc, c'est normalement l'argent du contribuable.
Oui, absolument.
On devrait avoir, on va dire, les yeux sur les résultats, ou en tout cas sur les entreprises concernées. Et donc, ça devrait être, selon moi, ça devrait être publié.
Oui, c'est effectivement la question qu'on se pose, et apparemment ce pourquoi ça coince, parce qu'il y a quand même une quinzaine de très grosses entreprises qui sont concernés et ça pourrait avoir un impact hein, sur peut-être leurs activités, je ne sais pas. Et pour ça que la ministre préfère pour l'heure discuter avec eux pour essayer de les remettre dans le droit chemin sans trop que ça ait de conséquences, vous comprenez ?
Bien sûr, ça se comprend, mais ça n'enlève pas le fait que de quel droit on masquerait ou on protégerait des entreprises plus que d'autres entre guillemets, je sais pas. Hein,
si bah, peut-être par leur importance justement, par leur notoriété effectivement, voilà. Et bon. C'est triste, hein, c'est triste pour toi, mais on voilà.
C'est comme pour tout, il y a des classes, il y a des différentes, il y a des classes un peu partout. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les grandes entreprises, les petites entreprises, il y a pas les bons, les méchants, il y a un peu tout voilà dans ce cas-là. Donc si on arrive à là en fait. Hein. Et deuxième chose. Donc, quel que soit le nom des entreprises, avant d'arriver à ces entreprises-là, c'est des personnes, donc c'est des gens qui font un recrutement et qui prennent les décisions d'éliminer certains candidats. Donc, je sais pas, c'est aussi une affaire de personnes avant d'en arriver à des gens de
bien sûr, ouais. Entreprises. Bah merci beaucoup en tout cas Abdelrani, on espère que peut-être que ça va avoir justement un peu d'écho et ce que le gouvernement aussi assume hein, de ce qu'il a commandé. Effectivement une étude a été menée, une campagne de testing et il est important quand même que le gouvernement rende des comptes pour le coup. Merci beaucoup.
Les Portugais veulent savoir.
Oui c'est ça, nous aussi on veut savoir Abdelrani, merci beaucoup. Voilà. À très bientôt, 01 40 33 9000, vos appels, vos témoignages aussi sont importants parce que faut que ça se sache quand même, on a ces rapports effectivement, mais il y a aussi la pratique, le vécu, ça il y a rien de mieux et parfois de pire aussi parce que ça peut justement vraiment occasionner quelques dégâts quand on se sent quand même discriminé dans son propre pays quand même, ce qui est quand même dramatique. 01 40 33 9000, allô bonjour, qui est avec nous?
Miaou.
Ah bah lui par contre on ferait bien de le discriminer un petit peu lui parce qu'il est complètement à la ramasse celui-là. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr et pour prendre part à la discussion, nous donner votre avis sur le sujet. On parle donc de cette campagne de testing qui a été menée, commandée par le gouvernement et pour essayer de dénoncer la discrimination. 140 entreprises ont été touchées. Une petite quinzaine sont très très fortement concernées en pratiquant la discrimination. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort de ce rapport, sans que pour l'heure nous ne connaissions le nom de ces entreprises qui pratiquent couramment la discrimination. Je rappelle ce chiffre, 20% de chances de moins d'obtenir un emploi lorsqu'on s'appelle Yasmina que Amandine ou Mourad que Florian. Ça c'est une réalité, une discrimination due à l'origine nord-africaine maghrébine. Allô bonjour. Allô.
Allô, oui.
Oui, bonjour madame, quel est votre prénom?
Oui, bonjour.
Bonjour, quel est votre prénom, bonjour. Chère madame?
Hayat,
vous nous appelez d'où, oui. Hayat?
Du 77.
77, vous faites quoi dans la vie, ma chère Hayat? Je suis un peu indiscret.
Je sais. En fait, je suis à la recherche d'un emploi.
Ah bah très bien, oui.
Et donc, comme vous parlez de discrimination, celles qui sont aussi concernées, beaucoup sont les mamans, en fait, qui sont restées un peu au foyer, on va dire.
Effectivement, ouais.
Avant, mais après... le fait d'être resté quelques années sans avoir travaillé, donc après il est très difficile de retrouver un emploi. Et rajouter à ça aussi le prénom, et rajouter à ça, voilà quoi. Moi je pense que le gouvernement, je voulais surtout parler par rapport à ça, je pense que le gouvernement devrait donner la liste des entreprises,
oui,
qui discriminent. Et si elle le fait pas, parce que au moins elle peut exercer une pression elle-même sur ses entreprises. Mais après, je pense que, je sais pas, des fois, je me dis peut-être que c'est peine perdue parce qu'elles sont, c'est des grandes entreprises, donc.
Oui, a priori, il y a, dans ces 140 entreprises, il y en a une quinzaine des très grandes entreprises qui effectivement pratiquent ce genre de discrimination à l'embauche.
Ouais, et elles vont se sentir intouchables de toute façon, hein, elles ont.
Mais je pense en tout cas le président s'était penché sur le sujet, il avait prononcé un discours, je le disais, je le rappelle tout à l'heure, en novembre 2017 à Tourcoing, à l'occasion d'un discours sur la politique de la ville, et deux ans après il y a rien quoi, toujours rien, on en est toujours au même constat, au même stade.
On a l'impression que c'est un peu il y a les élections bientôt, donc
ouais.
Faut peut-être donner voilà quoi.
Donc le rapport, Madame la Ministre, s'il vous plaît, publiez. Madame la Ministre devrait publier ce rapport, devrait publier les noms de ces entreprises qui pratiquent ces discriminations. Il faut que ça se sache.
Non, mais c'est clair qu'elle devrait les publier. Elle devrait les publier. Et puis voilà, en même temps, ça ça va peut-être donner une pression à ces entreprises-là. Et
exact.
Plus,
ouais.
Au moins.
Bah, vous cherchez dans quoi, Ayat? Vous cherchez dans quel secteur, vous?
Bah, en fait, dans le secrétariat.
Dans le secrétariat. Bon, bah, j'espère que vous allez trouver. N'hésitez pas, ne baissez pas les
merci
bras.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt, ma chère Ayat. Merci beaucoup. À bientôt. Samir aussi est avec nous. Salut, mon Samir.
Oui, bonjour.
Salut, Samir. Oui, alors, la discrimination à l'emploi.
Alors bon, c'est un sujet dont on entend parler depuis déjà très très longtemps.
Ouais.
Malheureusement, on est en 2020 et c'est toujours le même sujet. Moi, je voulais en fait insister et attirer l'attention sur le détournement de sémantique qu'on avait dans le paysage audiovisuel ou de manière générale. Hein. C'est-à-dire que on parlait de banlieue en fait délaissée parce que manquant de services publics, de pas mal de choses d'emploi. Et donc on pointait en fait le fait que les lieux, en tout cas d'où viendraient ces personnes, hein, parce que mais bon, on sait que les personnes issues aussi d'origine étrangère ou maghrébine n'habitent pas uniquement que les quartiers populaires, elles peuvent habiter les centres-villes. Et donc on a eu un glissement en fait ces 20 dernières années où de banlieues délaissées, en tout cas de banlieues, on en est venu en fait à pointer des personnes qui refuseraient de s'intégrer en fait, qui se couperaient en fait. Et là on a la preuve que bah non, on a des personnes d'origine maghrébine, peut-être de culture musulmane, hein, on ne sait pas, hein, on n'est pas dans leur vie, mais qui voudraient accéder en fait au marché de l'emploi, qui voudraient s'insérer, s'intégrer,
ouais.
Et on leur refuse en fait. Et donc il y a ce glissement en fait sournois où on fait croire que non, ce sont ces personnes-là qui manquent. Alors et surtout Christophe,
ouais,
parce que j'imagine que si c'est des grandes entreprises.
Ouais.
C'est des personnes qui sont, c'est des jeunes ou, je veux dire, qui sont calés, qui sont compétents, qui ont
ouais.
les codes sociaux et culturels,
ouais.
qui sont archi-diplômés et qui veulent rentrer dans ces grandes entreprises et on leur refuse. Et donc, il n'y a pas cette histoire de, bah non, en fait, ils n'ont pas les codes, ils peuvent pas, ils sont en décalage.
Merci, mon Samir.
Je
suis obligé de te laisser.
Parce que c'est des gens qui sont archi-diplômés.
Merci, Samir, en tout cas, pour ton appel et à très, très bientôt. Et très intéressant ce que tu as dit. On aura Myriam aussi dans un instant et on va changer littéralement de sujet parce que c'est les rendez-vous d'Anna. Et oui, avec une invitée. Ah, ça va être délicieux aujourd'hui. Je vous dis que ça. Top Chef, c'est lundi, ça tout de suite. Ça s'appelle Le Grand Forum. Merci d'être avec nous et en direct. On parle de discrimination dans cette première partie autour de ce rapport qui a été commandé par le gouvernement, campagne de rapport de testing auprès de plusieurs grandes entreprises. Et il est en fait révélé dans ce rapport que on a 20% de chances de moins d'obtenir une embauche lorsqu'on est une personne à consonance maghrébine, lorsqu'on s'appelle Anna par exemple, ou encore eh bien Rachid. 20% de chances de moins d'obtenir un emploi que lorsqu'on s'appelle évidemment Myriam. Myriam, ça peut passer encore. Sonia, je sais pas, encore Amandine. Tiens, alors ça passe très bien. Ça passe très très bien. Myriam, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous tous, à vos chroniqueurs.
Merci ma chère Myriam. Alors vous, c'est vrai que vous n'avez pas un prénom. C'est un prénom qui passe partout, Myriam. Ça va encore.
Alors oui, en plus les gens ont tendance à le prononcer Myriam, donc c'est vrai que c'est passe-partout.
Ouais.
Le vrai prénom c'est Myriam.
Myriam.
Et puis mon nom de famille, bon bah forcément il est
ah, connu. Oui. Ah bah oui, j'avais oublié le nom de famille, voilà ce qui pose problème. Effectivement.
Là, on n'y échappe pas.
On vous y échappait pas. Alors vous faites quoi dans la vie Myriam?
Alors actuellement je suis éducatrice spécialisée, donc je suis plutôt dans la branche du social, mais je sais
d'accord.
que à l'époque j'étais plus sur du commercial et je me souviens que ça a commencé à la période de recherche de stage. Où c'était très compliqué et c'est
ouais.
vrai qu'à un moment donné, quand tout le monde autour de vous trouve son stage et pas vous, commence à vous poser des questions. Et pour les recherches d'emploi dans le domaine commercial, j'avais trouvé aussi des difficultés où il y avait que des réponses négatives. Voilà. Dans le social, j'ai trouvé très facilement. Alors moi, j'en mets ça un peu sur le côté des mentalités. Je pense que peut-être dans le domaine du social, les mentalités peuvent être différentes.
Mm-hmm.
Ce qui fait que les personnes qui sont d'origine maghrébine dans le secteur médico-social, tout ce qui est médiation, travail dans les centres sociaux.
Ouais.
D'ailleurs, on retrouve beaucoup de personnes d'origine maghrébine dans ces lieux-là. Donc je pense que les mentalités dans certains domaines, certains corps de métier sont ou ouvertes ou encore très fermées. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelques années de ça, il y avait des boîtes d'intérim qui avaient été mis un petit peu en avant sur
ouais.
le fait que il y avait des recommandations qui étaient données sur on embauche des BBB, bleu, blanc, rouge... Voilà, il y avait une enquête, ou je ne sais plus si c'est un...
Est-ce que, Myriam, il faut que le gouvernement donne le nom de ces entreprises qui sont justement, qui se sont fait remarquer en pratiquant ce type de discrimination?
Complètement, parce que je me dis que c'est pas très juste, notamment par rapport aux entreprises qui jouent.
Bougez pas, Myriam, bougez pas, s'il vous plaît, parce qu'on est avec aussi Philippe Boyacki, qui est en direct de la manifestation. Ah, bah, il nous a mis en attente, parce qu'apparemment, ça chauffe du côté de Saint-Nazaire. Il y aurait pas mal de petits soucis du côté de Saint-Nazaire, nous dit Philippe. Bon, bah, je vous en prie, terminez, ma chère Myriam.
Oui, je vous disais, c'est pas normal parce que les entreprises qui jouent le jeu, pour le coup, qui ont un comportement, on va dire, normal, elles continuent à le faire, à embaucher des gens de la diversité. Et les entreprises qui jouent pas le jeu, il y a une forme d'impunité puis de banalisation de la discrimination. Puis au niveau légal, ouais. Moi, je trouve que quelque part, il devrait y avoir des actions qui devrait être mené, puisque ouais. À partir du moment où les tests ont été faits et qu'il est prouvé qu'ils
voilà, c'est ça qui est important à dire, c'est que ça a été fait, les résultats sont connus, on a le nom de très grandes entreprises qui ont été, j'allais dire, voilà, on a évalué ce type de discrimination au sein de leur recrutement, cellule de recrutement, il faut maintenant donner les noms. Merci ma chère Myriam en tout cas, et bon courage pour la suite.
Merci, à vous aussi, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Notre ami Boyacki, je sais pas où il est parti là, mais apparemment il nous disait que ça chauffait du côté de Saint-Nazaire. On parle de la manifestation évidemment qui a lieu en ce moment même à Paris, où il nous a annoncé d'ailleurs tout à l'heure beaucoup beaucoup de monde, et vous pouvez aller d'ailleurs sur les lives sur la page Christophe Le Grand Forum pour voir ce qui s'y passe réellement. Mais pour l'heure, on va parler un peu de cuisine, ça fait du bien. C'est parti mesdames, messieurs, pour les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Vous avez remarqué qu'on n'est pas lundi, mais on est jeudi. Mais elle est là. Bonjour Anna Guézard-Boicaz, bonjour.
Bonjour Christophe. Bonjour mesdames et messieurs.
Alors, comment allez-vous ma chère Anna?
Je vais très bien. Maintenant que je suis avec vous, je ne peux être que bien.
Bonne année, bonne et heureuse année d'abord.
Merci beaucoup, meilleure année, une bonne et excellente année à vous, à nous, aux chers auditeurs. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez très bien entamé cette année, malgré tout ce qui se passe, les manifestations, les grèves, le froid, l'Iran, les États-Unis. J'espère que vous allez passer quand même une excellente année, que vous allez survivre à tout ça, oublier vos soucis, vos problèmes et avoir une excellente santé. Alors, je crois que la vie a plein de dents.
Juste deux petites secondes, parce que a priori, il se passe des choses à Paris. Tu sais qu'il y a une grosse manifestation aujourd'hui.
Oui, on s'inquiète pour Philippe.
Oui, alors Philippe, on s'inquiète pour toi, qu'est-ce qui se passe?
Alors écoutez, on est à Saint-Nazaire, pour une raison indéterminée, il y a eu un mouvement brusque et des gaz lacrymogènes ont été tirés. Le groupe est scindé en deux, vous avez des gilets jaunes de l'autre partie de la 5-5-5 qui sont bloqués par la Brave, et des unités de police qui a bloqué la tête du cortège des manifestants où il y avait pas mal de syndiqués RATP et SNCF, et des gaz lacrymogènes ont été... lancés, relancés de part et d'autre. Quelques projectiles sont lancés vers les forces de police qui réagissent de manière vraiment, vraiment, vraiment professionnelle. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de coups qui ont été donnés, juste deux personnes qui ont été immobilisées et restituées au groupe. Et l'annonce a été donnée de dispersion de la manifestation.
Ah oui, d'accord, déjà. Bon, bah très bien.
C'est ça.
Bon, Philippe, tu nous fais des petits directs sur la page Christophe Le Grand Forum pour que les gens puissent suivre évidemment ce qui se passe en direct. Et donc, ça bouge.
Le live sur Le Grand Forum, on est en direct et là pour l'instant, je suis derrière les forces, le cordon de police qui recule dans un premier temps. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur...
Très bien. Merci mon Philippe et fais attention à toi évidemment. Alors ma chère Anna, pour cette petite interruption.
Je t'en prie, heureusement que j'ai pas écouté Philippe parce qu'il voulait que je couvre la manifestation avec
voilà,
lui.
Voilà, c'est ça.
Je préfère être avec le chef, mon invité aujourd'hui.
Alors, ton invité.
on joue la sécurité. Alors mon invité aujourd'hui est un grand chef cuisinier. Malgré son jeune âge, il est talentueux, il est d'origine algérienne. On l'a souvent vu à la télévision française ou celle du monde arabe. Dans des émissions culinaires auprès des chefs cuisiniers de renommée internationale. Il a participé à Top Chef saison 5 sur M6, si je ne me trompe pas, et candidat de Top Chef Monde Arabe sur NBC qui se passe en ce moment. On va pas dire où est-ce qu'il en est arrivé, où est-ce qu'il, jusqu'à quel grade, hein. Il est arrivé, vous n'avez qu'à suivre l'émission jusqu'à la fin. Il est aussi meilleur apprenti de France. Il s'appelle Mohamed Si Abdelkader. Il est avec nous aujourd'hui, malgré les grèves et les manifestations. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci
Anna.
D'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Mohamed, bienvenue.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Alors, meilleur apprenti de France.
Meilleur apprenti de France, c'est un concours en un an. Donc c'est départemental, régional et national. Donc c'est 3 médailles d'or en cuisine froide.
Ah oui. Bon. Donc il y a du talent, hein, ma chère Anna.
Ah oui, 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 oui. Et vraiment, en plus, ces plats ont l'air vraiment délicieux. Il va falloir qu'on fasse un tour chez lui ou dans son resto. Hein. On en reparlera après. Alors Mohamed, comme je viens de citer, tu es d'origine algérienne, mais je peux savoir tu es d'où exactement, de quelle ville?
Exactement, je suis né à Ramchi. Dans Wilaya 13, Tlemcen.
Tlemcen.
Et j'ai grandi à Benissaf, dans une qarya à côté qui s'appelle Bni Ghannan.
D'accord.
J'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans là-bas.
Et tabarakallah, Yannès. Alors Mohamed, lorsque tu parles de toi, tu dis que la cuisine elle t'a remis sur le bon chemin parce que je ne sais pas ce que tu faisais avant, mais en tout cas, elle t'a sauvé en quelque sorte.
Je faisais rien du tout parce que j'avais un passé qui était très très dur en Algérie quand j'étais jeune, donc j'ai travaillé très très dur, on travaillait très très jeune là-bas pour réussir à gagner sa vie, tout ça. La cuisine m'a sauvé la vie dans le sens où le peu de temps que j'ai passé en France, j'ai appris à parler, j'ai appris la culture générale, j'ai appris tout. Donc ça m'a vraiment mis dans le droit chemin, dans le sens où je me suis concentré à fond. Ça m'a donné plus qu'un métier, un savoir-faire, une façon de parler, une façon de se comporter. Grâce à mes clients, je rencontre beaucoup de gens.
Des gens exceptionnels.
Exactement. Et je m'enrichis avec ça.
Mais à quel moment tu t'es dit à quel moment tu as eu le déclic, tu t'es dit tiens, moi je veux devenir cuisinier?
À la base, j'étais pas fait pour devenir cuisinier. Ça m'intéressait pas du tout. Mon premier truc, c'était faire l'armée.
Complètement différent.
Exactement. Et quand je suis arrivé d'Algérie, je voulais partir à la légion étrangère. C'était mon kiff. Donc ma mère, elle m'a dit, t'es le plus grand, fais un petit diplôme, quelque chose. Donc les mamans, elles s'inquiètent toujours pour nous. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou.
Bisou le Haja.
Exactement. j'ai fait un diplôme, un CAP de 2 ans. Et je suis tombé amoureux de ce métier-là.
Et tu l'as fait en Algérie?
Non, je l'ai fait en France.
En France, en d'accord. France.
Et je suis tombé amoureux de ce métier-là. Et j'ai enchaîné mes diplômes, mes mentions et c'est venu comme ça.
Et est-ce que tu penses que si tu étais resté en Algérie, tu aurais poursuivi ton rêve de devenir chef cuisinier?
Sincèrement,
colonel,
je
ne
vais pas vous dire que j'aurais peut-être devenu cuisinier parce que la plupart de mes amis avec qui j'ai grandi sont engagés à l'heure actuelle à l'armée et tout ça. Malheureusement, la France nous donne une chance qui est incroyable quand même pour les écoles, pour beaucoup de choses, pour le suivi, tout ça. Ce qui manque un peu en Algérie.
Ouais.
On a des belles écoles de cuisine, on a ce qu'il faut, mais on a besoin de les motiver, de les pousser un peu plus.
Ouais, c'est ça.
Et la France me donne cette chance-là.
Mohamed, à tes débuts, lorsque tu as annoncé à ta famille ou tes parents, que surtout les parents, que tu voulais devenir chef cuisinier, peut-être qu'à l'époque c'était pas très très commun ou je ne sais pas. Quelle a été leur réaction?
On n'annonce pas de devenir chef cuisinier.
Oui, cuisinier.
Voilà, quand je suis devenu cuisinier, c'est venu naturellement, c'est venu petit à petit. Et je me suis retrouvé dedans. En fait, je suis tombé dedans.
Tu as commencé par la toute petite et
En fait, j'ai commencé par un stage de troisième. Là, le stage de troisième, c'était 15 jours. Et un an après, j'ai commencé à faire un CAP. Et je suis tombé dedans. Ah, j'ai fait 2 ans en CAP. Après, j'ai fait un an mention traiteur. Après, un an mention art de cuisine allégée. Et je suis resté dedans.
Et tu leur faisais des plats à la maison?
Je cuisine pas à la maison.
Ah, pas du tout.
du tout. Je cuisine pour aller cueillir toute ma famille de temps en temps, exceptionnellement pour l'Aïd ou quelque chose comme ça. Mais sinon, vu que je passe toutes mes journées dans ma cuisine, quand je rentre chez moi, je ne cuisine pas du tout.
Au fait, et tu fais comment d'ailleurs pour manger? Qui cuisine pour toi alors à la maison?
Alors déjà, on cuisine pas pour moi. Non, sincèrement, nous les cuisiniers, on est toujours avec des beaux produits, du filet de bœuf, du caviar, du foie gras, ces choses-là. Et on est un peu gavé de ces produits-là, à force de les voir.
Oui.
Du coup, on les mange pas. Donc ma meilleure bouffe, ça reste des sushis, un grec.
Ah oui.
On est simpliste quand même. Peut-être on est bon cuisinier, on est simple.
Je voulais simplement informer les auditeurs que j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à nos followers de poser des questions à notre chef cuisinier, notre invité aujourd'hui, Christophe. Et puis, il y a une question qui revient toujours. Est-ce qu'il est marié ou pas? Est-ce qu'il est marié?
C'est la question qui revient souvent à ce moment-là.
Et à laquelle monsieur ne veut pas répondre. Mais si tu étais marié, tu cuisinerais pour ta femme?
Non, je suis marié, je suis marié.
Ah! Voilà, mesdames, maintenant vous savez.
Voilà. Je cuisine pour ma femme, non, puisqu'elle travaille avec moi.
Ah.
Donc elle mange tous les soirs ma nourriture. Et je préfère que madame cuisine pour moi. J'aime bien les produits faits maison.
Ça se voit que t'es un Algérien, toi. Christophe. Mohamed Si Abdelkader, le chef Thierry Marx, un grand chef français, t'a dit l'échec est le fondement de la réussite. Et je pense que tu en as fait... c'est une citation qui te...
Le chef Thierry Marx, c'est une grande histoire parce que à moi, je voulais arrêter la cuisine dans ma vie. Mm-hmm. Parce que on parlait de discrimination tout à l'heure avec Christophe. C'est quelque chose qui est très très dur. Malheureusement.
Tu l'as vécu en cuisine?
Je l'ai vécu en cuisine, mais ça m'a rendu plus fort que ça. Le truc, c'est que la discrimination, il faut la prendre autrement. Il faut pas que ça fatigue la personne, dire ouais, ça y est, je suis épuisé, parce que non. Il faut que ça te rende plus fort, il faut que donne plus de force. Je l'ai eu ça, sur cette chose-là, et je remercie ces personnes-là d'ailleurs.
Oui.
Parce que c'est eux qui m'ont rendu plus fort. Et moi, je voulais arrêter parce que ça m'a un peu fatigué. On a tous un moment dans notre vie où on est fatigué. Et ce moment-là, je suis tombé sur le livre de Thierry Marx et j'avais lu son histoire, son parcours, d'où il vient. Et ce gars-là, il m'a redonné, avec un simple livre, il m'a redonné l'envie de redevenir encore plus fort. Et de partir d'avant. Et je suis reparti plus tard, avant tout ça. Et je l'ai rencontré à Top Chef. Et je me suis pas trompé sur cette personne-là. Ce qu'on disait sur les livres, eh ben en vrai, il est encore mieux. Beaucoup mieux. C'est une personne qui soutient beaucoup de gens. Avec d'être cuisinier, c'est pas juste savoir faire à manger. Il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être, il y a le partage, l'aide. Ce gars-là, il a tout ce qu'il faut.
Ouais, c'est magnifique, hein. C'est magnifique de rencontrer comme ça des personnes qui nous redonnent confiance en nous, qui nous poussent vers l'avant et qui croient en nous aussi, tout simplement. C'est une preuve que le bon et le bien existent encore dans ce monde, hein, Christophe?
Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Top Chef, justement, parce que c'est important. Beaucoup regardent cette émission sur M6 pour la partie France. Quelle a été ton expérience? Comment ça s'est déroulé?
Alors, quand j'ai participé à Top Chef sur M6, j'étais encore jeune. J'étais apprenti, donc 2 semaines après mon diplôme, je me suis retrouvé avec des chefs étoilés, voilà, j'étais très jeune. J'avais pas mon caractère de chef, confiance en moi, je l'ai toujours eu, mais par contre, oser prendre le risque, ça, je l'avais pas encore. Mon parcours, il a été assez bref sur M6. Quand même, j'ai gagné des belles épreuves parce qu'ils ont été surpris. J'ai été très malin. Mais c'était une très belle expérience.
Quelle était ta meilleure prestation au sein de Top Chef? Celle dont tu es la plus fière, en tout cas?
La plus fière, celle que j'ai gagnée de Thierry Marx.
Ouais.
J'ai gagné son épreuve, c'était un tartare entre terre et mer, j'avais fait. Et ça, j'étais très très fier parce qu'il y avait des chefs étoilés avec moi qui... Dans mon concours, moi j'étais encore apprenti et j'ai fait le choc de gagner cette épreuve-là en 15 minutes.
Ah oui, formidable. Et puis à Top Chef, donc version arabe sur MBC, c'est en ce moment-là.
Exactement.
Là, t'es un peu plus confirmé quand même.
Tous les mercredis. Entre temps, on a grandi, on a pris de l'expérience, on a pris confiance, notre caractère de chef s'est forgé.
Mais est-ce que c'est une revanche parce que tu t'es fait quand même éliminer de Top Chef France? Pourquoi tu t'es inscrit à Top Chef?
Ce n'est pas une revanche. Déjà, ils m'ont contacté pour ça. Et ce n'est pas une revanche, c'est une promesse que je me suis fait.
Mm-hmm.
Je me suis dit, si je reparticipe à un autre concours ou à un autre Top Chef, c'est pour gagner. Et là, actuellement, je me bats très très dur pour
Il y a beaucoup
de concurrence. C'est vrai que t'es tenace, hein, c'est bien.
Il y a beaucoup de concurrence au sein de cette émission, version arabe.
Il y a énormément de concurrence dans tous les concours, il y a de la concurrence. Il ne faut pas sous-estimer les personnes.
Oui.
Parce que chaque petite personne peut vous surprendre.
Mm-hmm.
Et pour gagner, il faut sous-estimer personne et mettre toutes les chances de ses côtés.
Mais quelle est la différence entre les deux émissions? On sait que c'est le même concept,
alors,
mais une version arabe et une version...
Alors, la version française, ils sont vachement concentrés sur la technique.
D'accord.
Professionnel.
Ok.
On a juste un concours qui est bien d'ailleurs, mais par contre, on n'a pas de l'humanité. Par contre, quand on rentre dans le monde arabe, on retrouve plus qu'un concours.
Mm-hmm.
On retrouve le côté humain. On vit tous ensemble. On rencontre d'autres pays arabes. Donc notre culture a grandi plus en plus. Et les Arabes, ils aiment bien mettre à l'œil. Ils aiment bien taper à l'œil.
Oui.
Donc franchement, on a fait des épreuves dans des endroits exceptionnels, avec des personnes exceptionnelles. C'est deux choses différentes.
Mais ce que tu es en train de dire, c'est que tout est beau, tout est rose et tout. C'est vrai que c'est bien de rencontrer des gens bien, mais il y a le bon et le mauvais dans chacun d'entre nous. Est-ce que ça se passe bien et c'est pas Disney non plus, hein?
Non,
j'imagine qu'au backstage, ils te mettent pas un petit peu de sel sur tes plats, dans tes plats.
On va parler de ce sujet-là. Mais il y a une chose que moi qui ai fait aujourd'hui, j'ai réussi à apprendre ce métier-là. On va dire le terme, j'ai volé ce métier-là.
Mm-hmm.
C'est parce que j'essaie de voir toujours les bonnes choses. Parce que quand l'humain regarde les mauvaises choses, il est faible d'un coup. Il se fatigue. Donc la meilleure solution, c'est voir toujours les belles choses. Certes, il y a des hauts et des bas. Maintenant, le Top Chef arabe, ouais, et c'est de la compétition, c'est un concours, c'est de la restauration, il y a de la pression, il y a des petites prises de tête, ça arrive.
Oui.
Maintenant, tout va bien.
Surtout qu'on a vu dans le lancement de l'émission de la semaine prochaine, Christophe, il se bat avec un autre concurrent, ça va être chaud. Hein.
Ah bon?
Ah oui.
C'est à quelle heure alors? Ça a lieu quand cette émission?
Alors, tous les mercredis à 19h30 en France.
Sur NBC.
Sur NBC, oui. Chef Mohamed Si Abdelkader.
Alors, on va dire mon nom de famille comme ça en l'air. C'est Si Abdelkader Ben Moussa Mohamed Idjin.
Ah ouais. Ah ouais.
Pour les noms qu'ils ont eu du mal, celui-là, il a eu du mal.
Alors, tu es chef cuisinier dans
ça
un.
Croire.
Alors, tu es chef cuisinier dans un restaurant gastronomique halal. Alors, ici en France.
J'ai lancé mon restaurant avec des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu malgré mon jeune âge. Donc, deux personnes qui étaient là pour moi. Et ils ont cru en moi, ils ont investi pour moi. On a le restaurant Le Carré, qui est dans le 93 au pavillon sous bois. On voulait rajouter une valeur en plus de nos bons lieux. On n'a pas besoin d'aller sur Paris pour manger de la bonne bouffe ou avoir un bel cadre. Donc nous, on a fait ce concept-là chez nous dans le Lave 3.
Et moi j'ai vu les photos, j'ai pas encore goûté tes plats, mais j'ai vu les photos, c'est magnifique. Tu fais en sorte de mélanger, tu dis que tu veux mélanger ce que tu as, enfin tes origines ou les plats de traditionnels avec la gastronomie française.
À la base j'étais gastronomie française.
Oui.
La cuisine orientale m'intéressait pas parce que je me suis pas intéressé. Peut-être parce que j'ai grandi avec ça, j'ai mangé ça tout le temps, donc je me suis pas intéressé. Donc moi j'étais vraiment gastronomie française. Ce qui m'a apporté le Top Chef arabe, c'est que j'ai rencontré des chefs passionnés par la cuisine arabe et ils m'ont fait découvrir des produits, des épices, des choses que je connaissais pas. Ça m'a redonné envie de retrouver mes origines en cuisine. Et là dans ma nouvelle carte, j'ai fait une food fusion de la française.
Ah oui, c'est assez original là. Hein. Ouais. Mais... Alors, juste pour qu'on sache, Mohamed, le restaurant, donc, c'est à Clichy-sous-Bois, c'est ça?
Non, Pavillon-sous-Bois.
Pavillon-sous-Bois, oui, d'accord. Oh, très bien. Tu pourras d'ailleurs nous donner l'adresse, comme ça peut aider. C'est quoi? Parce que quand on parle gastronomie, tout de suite, les tarots, un peu, sont un peu élevés, non?
Alors, il y a deux choses. Il y a les vraies personnes qui décident de la gastronomie française, sachant que nous, on cuisine halal, c'est un restaurant halal.
Ouais.
On n'a pas de la gastronomie française.
Ah oui.
On n'a pas, parce que quand on dit gastronomie française, il faut les vins, il faut les fromages, il faut ces choses-là. Nous, dans notre culture, on n'a pas tout ça. Mais on n'a pas, même on mange le fromage, il mange quoi? De la vache qui rit? Du boursin? Ouais. Non. On a une chose quand même, c'est que la nouvelle génération, on commence à être éduqué, on commence à aimer les bonnes choses.
Alors qu'est-ce qu'on mange chez toi, Mohamed, alors?
Chez moi, on mange du foie gras.
Ouais.
On mange de la cervelle de mouton.
Ouais.
Revisiter, c'est une dégustation surprise. On mange du chèvre chaud croustillant. On mange un velouté de patates douces, gingembre et tonka.
Tout est fait maison.
Tout est fait maison.
Sauce, tout.
Est fait maison. Toutes les sauces, rien du tout.
Ouais.
Qui est surgelé.
Très bien.
À part le granité qui va avec le mécuit que je surgèle obligé.
Et le dessert, t'es un peu spécialiste en pâtisserie ou pas?
Alors j'avais fait le championnat de dessert de France où j'ai été demi-finaliste.
Ouais.
Parce qu'en fait j'ai fait un CAP en cuisine, mention traiteur, mention pâtisserie et mention art de cuisine allégée.
Alors c'est quoi ta spécialité en tant que pâtisserie?
Le Paris-Brest, j'irais.
Ah ouais?
Le Paris-Brest, il est exceptionnel, comment je l'ai retravaillé, mais j'ai pas de préférence. C'est comme un père qui a des gosses. Il peut pas avoir de la préférence.
C'est combien à peu près le menu chez toi? Enfin, ça se passe au menu, c'est à la carte, c'est comment?
C'est à la carte. Pour entrée, plat, dessert, il faut compter une quarantaine d'euros.
Oui, ce qui est correct.
Tout est fait maison, des bons produits, on n'utilise pas du poulet qui vient du marché, on est sur
du poulet fermé. Manger, en famille, entre amis, pour un événement quelconque, voilà, dans un bel endroit. À Pavillon-sous-Bois, le nom
le 15 avenue Victor Hugo, Pavillon-sous-Bois, le carré.
Le carré, voilà. Il y a peut-être un numéro de téléphone s'ils veulent réserver éventuellement. Si tu l'as.
Je te prends au dépourvu.
C'est pas grave, on cherche sur internet.
Mohamed, entre-temps, si on te proposait un bon poste dans un palace parisien.
Jamais.
Ah oui.
Jamais. Sans réfléchir à cette question-là, jamais. J'ai eu la chance de reprendre des restaurants étoilés. J'ai eu de la chance. Si je veux demain travailler avec Thierry Marx, si je veux juste que je l'appelle et je suis avec lui. Mon but, c'est que je veux faire ce qui me plaît à moi. Je veux pas qu'on me bloque. Je veux faire plaisir à notre peuple, entre guillemets. Parce que je veux qu'ils découvrent c'est quoi la gastronomie française. Je veux qu'on rentre dans un restaurant, on n'est pas obligé de manger que le poisson.
Oui.
Voilà, ça, je veux qu'ils viennent chez nous. Quand ils viennent chez moi, ils vont manger de la gastronomie française. Certes, ces produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, mais je veux qu'ils osent,
La bonne viande rouge.
La cervelle du mouton, on a quand même l'habitude.
Ça là, c'est des petites dégustations surprises que j'offre.
En plus.
Ah Christophe, je suis perdue dans la nourriture là, ça y est.
Je
commence à avoir vraiment faim. Alors, on passe au cuisinier préféré. Quel cuisinier t'inspire à part le...
Le premier, Thierry Marx.
Ok.
Le deuxième, ça reste Monsieur Jean-François Girardin. C'est le président des meilleurs ouvriers de France. C'est quelqu'un qui, comme Thierry Marx, très humain, qui aide beaucoup les jeunes. Et comme quoi, la discrimination, tout ça. Il y a des gens, d'ailleurs, qui t'aident plus que les gens de chez toi.
C'est vrai. Ça, c'est une...
La discrimination est pratiquée aussi à l'intérieur de la communauté. Hein.
Voilà. Ouais. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se focalisent des gens de l'extérieur.
Mm.
Voilà. Et le but, il faut toujours voir les bonnes choses et choisir les bonnes personnes.
Effectivement.
Jean-François Girardin, ça reste un exemple de tous les chefs qu'il peut avoir.
Pourquoi tu ressens le besoin de faire des concours, de participer à des émissions culinaires? Est-ce que c'est pour avoir la visibilité, la reconnaissance ou... Pourquoi au fond de toi tu fais ça?
Franchement, la première chose que je fais, c'est par rapport à moi. C'est qu'à chaque fois, ça me rebooste plus. Je suis obligé de mettre en compétition avec moi-même. Et ça me rebooste plus, ça me donne plus l'envie. De deux, c'est bien beau être cuisinier, mais si tu te montres pas, tu resteras toujours dans une cuisine enfermée.
Ouais.
Le but c'est de se montrer et
de montrer son talent.
Ah oui.
Absolument. Il va continuer d'ailleurs de nous le montrer dans un instant sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna. Je tenais à te faire passer un petit bonjour. Il s'appelle David. Il me dit bonjour. Je viens d'écouter France Maghreb 2 par hasard sur internet et j'ai découvert les rendez-vous d'Anna que j'aime beaucoup. Bon, voilà. Bravo. Merci David.
Merci David.
Dans un instant, d'ailleurs, si vous, mesdames, messieurs, vous avez envie de poser des questions, pour lui demander des petits secrets sur ses plats, ses réussites, sur sa carrière de chef cuisinier. Il est avec nous en direct. Vous pouvez l'appeler au 01 40 33 9000. Et il y a le petit portrait chinois. Tu me l'as préparé, Anna, j'espère.
Mais bien sûr.
Tout de suite, ne bougez pas.
France Maghreb 2.
Le grand forum avec Anna Gezar-Bocaz pour les rendez-vous d'Anna et son invité aujourd'hui, c'est Mohamed Si Abdelkader, chef cuisinier et également
candidat
top chef arabe sur MPC. C'est en ce moment que ça se passe. C'est tous les mercredis à 19h30 pour suivre les aventures. Apparemment, il y a de grosses choses qui se préparent pour la semaine prochaine. Vous pouvez poser vos questions à notre candidat ici, présent sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Et chose importante, donc tu as un restaurant, on le rappelle, dans lequel tu proposes des menus gastronomiques 100% halal. Ça se passe du côté de Pavillon-sous-Bois. Et tu me disais à propos de la viande, un élément très important de la viande, parce que je te disais oui, je suis un grand amateur de viande rouge, et tu me disais quelque chose de très important à signifier.
Exactement, Christophe, il aime bien la viande rouge, et chez nous on a de la viande maturée. Donc on a acheté notre cave de maturation, il faut maturer nos côtes de bœuf et nos trois côtes, donc des races prestigieuses comme des races françaises classiques, et on les fait maturer 45 jours, 30 jours, 60 jours. Et la viande, elle a une saveur exceptionnelle.
Alors quand on mange par exemple un bon pavé de bœuf, qu'est-ce que tu conseilles comme sauce?
Sincèrement, un bon pavé de bœuf, ça reste une sauce au poivre.
Ouais.
Voilà. Mais ça, j'en ai pas. Je travaille que des produits, on va dire, de luxe et qu'ils ont un bon goût, comme le filet de bœuf.
Ah, le filet de bœuf. D'accord. Alors, d'ailleurs, quel est le meilleur morceau, Mohamed, du bœuf?
Du bœuf. Ouais. Tout dépend de la race. Tout dépend de la race. Mais si on prend une race, par exemple, comme du Wagyu ou du Kobe,
l'entrecôte. Ouais, là, je suis perdu, là, ça y est.
L'entrecôte.
Non, mais quand tu vas chez ton boucher, par exemple, tu dis voilà, je voudrais un très très bon morceau de viande, de bœuf. En général, qu'est-ce que tu
conseilles? Filet de
bœuf. Filet de bœuf.
Filet de bœuf, je conseille.
Ouais. Bon. Ça donne envie, en tout cas, évidemment.
Ah, c'est ça. Il nous avait parlé d'une sauce aussi terre-mère qu'on pouvait manger avec la viande.
Alors, j'ai une sauce qui est crème de homard. Le mélange peut être un peu surprenant.
Mm-hmm.
Donc, viande rouge, crème de homard. Mais ce mélange-là, il est exceptionnel.
On réserve nos places, Christophe.
Oh oui, tout de suite, évidemment.
On va réserver tout de suite. D'ailleurs, on va laisser le numéro.
Oui. Cette fois, le numéro. Ah, oui. Alors, le restaurant s'appelle Le Carré.
Le Carré, le 15 avenue Victor Hugo, le Pavillon sous-bois. Le numéro, c'est le 01 71 86 77 73.
01
71 86 77 73.
Restaurant Le Carré, Pavillon sous-bois. Alors, j'aimerais te poser une dernière question avant de passer au portrait chinois.
Avant la dernière question, ma chère Hana, on refile à Paris parce qu'a priori, c'est la guerre, nous dit Philippe Poyaki. Philippe, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, plein Saint-Augustin, des jets de projectiles assez violents, des pavés énormes lancés sur les forces de l'ordre.
les forces de l'ordre qui répliquent par des gaz lacrymogènes et plusieurs personnes prises en charge par les médics. Heureusement qu'ils sont là, ils ne font, ils font pas de distinction entre les forces de l'ordre ou des manifestants, mais beaucoup de gaz lacrymogènes, quelques incursions pour extraire des récalcitrants, mais globalement le calme est redescendu d'un cran à l'instant, mais plusieurs personnes dans une situation prise en charge immédiatement par les médics, une dame qui vient de transporter, qui vient de pris à bout de bras par plusieurs médics, et un cordon vient d'être fait pour pouvoir laisser les médics travailler en totale sérénité.
Bon, alors fais bien attention à toi, mon Philippe, poursuis évidemment tes aventures sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum. Merci mon Fifi.
Je vous en prie, à tout à l'heure.
Voilà, alors, la dernière question de Anna.
Ça craint.
Alors, on est mieux dans une cuisine quand même.
Exactement. On est plus en sécurité. Revenons à la nourriture, nous, voilà. On est bien chez nous.
On est bien.
Alors, c'est une question qui m'a été envoyée sur Instagram par un des followers. Lors du premier épisode de l'émission, le grand chef Jean-François Girardin, président de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, t'a qualifié Mohamed, donc, comme un chef très talentueux. Il t'a suivi pendant le concours de MAF, meilleur apprenti de France, que tu as gagné par la suite. La question est, à quand ta participation au concours du MOF? Tu es un chef très talentueux et tu as tous les moyens pour être un grand chef. Bonne chance pour la suite et l'émission, croyons en vous. C'était le message.
En tout cas, il connaît très bien mon parcours, il me suit beaucoup, je le remercie beaucoup, je remercie tous mes fans qui me soutiennent, qui me donnent de la force d'aller plus loin à chaque fois. Je les remercie beaucoup et j'oublierai pas d'où je viens par rapport à mon petit village qui connaissent pas la cuisine française, donc on va leur faire découvrir ça. Le MOF, c'est un concours d'une vie. Sincèrement, c'est le concours le plus prestigieux. Tout ce que j'ai fait par rapport à Top Chef, tout ça, c'est médiatisé, tout ça, ok. Mais certes, ce concours-là n'est pas médiatisé, mais c'est le concours d'une vie. Il est réputé dans le monde entier, les MAF. Et donc, ça existe dans plusieurs catégories, dans de la mécanique, de l'horlogerie, de plusieurs choses. Et en cuisine, c'est un concours qui est très, 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 très dur. Et sachant que je suis quelqu'un qui aime pas perdre, le jour où je ferai ce concours-là, ça sera pour finir ma carrière. Et pour le gagner directement.
Donc c'est pas pour tout de suite, quoi.
C'est pas pour tout de suite.
On a Daoud qui nous appelle au 01 40 33 9000 qui voudrait te poser une question. Salut Daoud.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, t'écoute Daoud pour ta question. Bonsoir. Au chef cuisinier Mohamed Sir Abdelkader.
Avant tout, je dis bravo au meilleur apprenti. Parce que je sais que c'est un concours difficile. J'ai un proche là qui a fait ce concours et c'est très difficile et pour l'avoir, et donc je le félicite. Et donc j'ai une petite question pour le chef Abdelkader.
Oui.
Comment, parce que en fait moi je suis parti en Turquie et là-bas j'ai mangé vous savez la viande de Nusret là, le mec Salpe là qui fait le sel.
Ouais.
Le geste là. Ouais, et donc en fait comment avoir une viande on va dire pas maturée mais tendre à la maison, mais fait maison. Genre sans le charbon ou à la poêle.
La question de Daoud. Chef.
Alors, je vais te donner le secret ou l'astuce. La maturation ne rend pas la viande plus tendre que ça. Ça l'aide un petit peu parce que la viande, elle se repose, les muscles qui se détendent, la rend un petit peu tendre, mais elle sera jamais tendre comme un filet de bœuf. Maintenant, le goût qu'elle a, c'est la cuisson, c'est sur de la charcoale ou du feu de bois. C'est ce qui va donner le côté barbecue. Mais pour avoir une viande bien tendre à la maison, le problème qu'on fait, nous, c'est que, comme ils font le maire, ils mettent une poêle directement, elle est pas chaude, et mettent la viande.
Ouais.
Donc il n'y a pas la réaction de Maillard. Là, on rentre dans des trucs un peu techniques. La réaction de Maillard, ce qu'il fait, il faut laisser la poêle chauffer bien avec un peu de l'huile et mettre la viande directement. Ce qui va faire le choc thermique, ce qu'on appelle la réaction Maillard, ça va la colorer. Donc il faut la colorer des deux côtés, la laisser se reposer deux ou trois minutes, comme ça les muscles ils se relâchent.
Ouais.
Le jus qui est à l'intérieur, c'est pas du sang qui coule, c'est de l'eau, comme le corps humain et le corps animal est composé d'eau.
Ouais.
Donc le cette eau-là va couler, vu que la viande elle est rouge, elle va se colorer. Donc ce n'est pas du sang. Et après, il faut la remettre à cuire.
D'accord, donc
c'est
en deux fois alors.
Exactement.
Alors on fait cuire, donc je résume, hein. On met la poêle sur le feu, on la laisse bien chauffer, etc. Ensuite, quand ça a bien chauffé avec une petite goutte d'huile d'olive par exemple, ou d'huile.
Non, l'huile d'olive c'est plus pour les légumes, et l'huile de tournesol c'est pour les viandes rouges.
Donc l'huile de tournesol, d'accord. Et ensuite, donc dès que la poêle est bien chaude, on met la viande, on la retourne assez vite. Et une fois que c'est fait, on la retire, on la laisse se reposer 3 petites minutes.
Exactement.
Et ensuite, on la remet pour la finir de la cuire.
Voilà.
Très bien. Ça, c'est une belle astuce, Daoud, t'as vu?
Ouais, mais chef, j'ai une question. En fait, c'est, il faut que la viande soit pour qu'ils disent pour cette façon, parce que moi j'aime bien manger bien cuit. Donc ça soit combien de centimètres pour que la viande, pour que ça marche, pour qu'elle soit bien cuite et bien tendre.
Alors, bien cuite et bien tendre, c'est peut-être.
On peut pas avoir de la tendresse et que ça soit bien cuit. On n'est pas des magiciens, mon ami.
Ah ouais. si tu veux de la bonne viande tendre, faut que ça soit saignant, mon frère. Hein. C'est comme ça que ça se mange. Hein.
Alors il y a une astuce que j'ai réussi à retrouver d'ailleurs, et je peux faire du bien cuit, pas bien cuit, je fais que du à point, mais il sera pas rouge à l'intérieur. Ouais. Et tendre, il y a une race qu'il faut prendre, ce qu'on appelle la cularde. La cularde, c'est une grosse bête, c'est une grosse vache. Elle est gavée, donc elle devient très très grosse. Et sa viande, elle est très très tendre. Mais son goût, il est moins fort qu'à par rapport à une charolaise ou une limousine ou quelque chose comme ça.
Voilà, c'est aussi la gamme de la viande qu'il faut choisir aussi. Voilà, mon Daoud, bon courage.
Okay, merci à vous.
Salut, 01 40 33 9000. Là, on était dans le technique, dans le dur, hein, ma chère Anna.
Ah oui.
Avec la viande, évidemment.
Moi qui pensais que je savais bien cuisiner.
Mais ça, je le savais. Je le savais, là, pour la viande rouge. Et très peu de gens le font, Mohamed. Cuire la viande rouge comme ça. C'est vrai, on met la poêle, hop, on met la viande rouge, on retourne, hop, et c'est bon, on mange. C'est pas comme ça.
Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la technique un peu de nos mamans.
Ouais,
on parle
ouais.
Temps, elle cuisine pour plusieurs personnes. Allez, on y va.
Et les frites. Il paraît qu'il faut les frire, cuire deux fois aussi.
Alors, les frites, faut les cuire deux fois aussi.
Comme les Belges.
Mais il faut sélectionner aussi.
Ah.
La gamme de la frite.
Ah, eh bah, oui.
La pomme de terre.
Oui. La pomme de terre, on peut avoir de la criant, on peut avoir de la gata, on peut avoir de la charlotte. Mais chaque pomme de terre a
et tout ça, tu as appris à l'école, quoi, en apprenant le métier de chef.
Non, l'école, on apprend
c'est
les bases.
C'est une culture générale aussi.
L'école, on apprend les bases, mais c'est notre vécu. C'est
d'accord.
Ce qu'on va vivre, c'est ce qu'on va travailler, c'est notre expérience. Et c'est une culture générale aussi, il faut s'intéresser.
Chef Mohamed, est-ce que vous comptez, pourquoi pas, ouvrir une école vous-même, enseigner le métier de.
Ou un livre de recettes, par exemple.
Le livre de recettes, c'est en cours avec mon collègue Faisal que j'ai rencontré à Top Chef, qui est d'ailleurs du Maroc, il est au Maroc. Donc on parle de lancer un livre, moi et lui. Donc c'est là où ce que j'aime bien, le France-Maghreb, on parle de tout le Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie,
le Maroc.
Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles comme Faisal Zahraoui, qui a fait Top Chef avec moi sur NBC d'ailleurs. Et hier, il a gagné l'épreuve.
Ah.
Félicitations. Et on parle de développer le livre. L'école, c'est autre chose. C'est que je suis quelqu'un qui est jamais satisfait.
Ouais.
Ça veut dire, même si j'apprends tout le temps, tous les jours, c'est jamais assez.
On a Fatah qui est avec nous. Il nous appelle du 93. Il souhaite te poser une question, chef. Fatah, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, on vous
bonsoir
écoute.
À toute l'équipe, Christophe, Anna et.
Merci.
Bonsoir,
chef Mohamed. J'ai une question pour le chef. À quand une émission Top Chef au Grand Maghreb?
Ah oui. Ah oui, oui.
Et quoi? J'ai pas entendu.
À quand une émission?
Grande émission Top Chef au Grand Maghreb? Ouais.
À quand une émission Top Chef au Grand Maghreb?
Ah.
En tant que jury, hein.
Ah, voilà, moi, c'est exact. Il est dans mes pensées, en fait. Parce qu'à ce niveau-là, maintenant, avec le niveau que tu as, Mohamed, tu
ne peux
être que jury. Ouais. Hein.
Non, peut-être que jury, ok, mais pour l'instant, on l'a pas, ce concours-là. C'est un concours qui faut un grand investissement, D'ailleurs, il faut que notre Maghreb se réveille.
Mais s'il te propose une émission un petit peu similaire dans la cuisine.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis le premier à être là pour aider, on va dire, et soutenir. Et monter plus en plus notre table. Je suis le premier à faire ça. Maintenant, en restauration, on est encore un peu endormi.
Oui.
Malheureusement, on met pas assez ça en avant.
Il y a possibilité peut-être d'ouvrir un resto tout comme le tien, celui que tu as à Pavillon-sous-Bois.
En
Algérie, par exemple. Est-ce que ça marcherait?
C'est possible, ça marcherait.
Franchement,
c'est une possibilité, ça marcherait énormément. Sachant qu'on a des endroits très très
Alger,
Oran, Tlemcen,
Ramchi.
Et Ramchi, Fatah, d'ailleurs, cette personne-là, je la connais très très bien.
Ah bon?
Voilà. Ah oui.
D'accord.
J'ai reconnu sa voix. C'est une personne qui m'a soutenu depuis j'étais très très jeune, qui m'a aidé beaucoup jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui m'aide beaucoup.
Est-ce qu'il a été mangé dans ton restaurant?
Pas encore. Plusieurs de mes restaurants, mais pas celui-là encore.
Alors quand même, faut venir voir le restaurant de notre ami Mohamed.
Le carré.
Je connais la cuisine de Mohamed depuis quelques années.
Ouais.
Je sais que Mohamed, il monte en gamme à chaque fois, et sa cuisine, elle est exceptionnelle.
Bon, bah parfait. Merci beaucoup en tout cas, Fatah, pour ta question. Et à très bientôt. Bonne soirée.
Au revoir.
Ah, on parle de cuisine, on parle de tout le monde finalement. Ça intéresse, ça concerne tout le monde la cuisine finalement.
Ben oui.
On aime bien manger aussi, c'est important. Le bien manger.
Il paraît que pour gagner le cœur d'un homme, on passe par son ventre. C'est pour ça que ça intéresse tout le monde.
Si on parle de la cuisine, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Si on parle des rendez-vous des présidents, pour régler des problèmes d'État, des problèmes du monde, c'est autour d'une table. On parle d'un mariage, autour d'une table. Tout autour de la cuisine.
Ouais.
Kimango le chez nous, quand le ventre est plein.
On
va essayer de mélanger ça comme on peut.
Alors, avant de terminer, évidemment, je rappelle donc le Carré, c'est le nom du restaurant. Ça se passe du côté de Clichy, de Pavillon sous Bois, pardon. Et vous pouvez y aller, bien sûr, si vous voulez partager un bon petit moment pour profiter de ces plats délicieusement préparés par le chef et son équipe, bien sûr, parce qu'il prépare pas tout seul. Hein, il y a une équipe derrière, Mohamed Si Abdelkader, qui en ce moment concourt dans l'émission Top Chef. Sur la chaîne NBC tous les mercredis soirs à 19h30. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est autour, tu nous as dit, 40 € à peu près, entrée, plat, dessert, par personne, évidemment, pour passer une bonne soirée. Ça peut être l'occasion, je sais pas, si vous avez un anniversaire à fêter, faire plaisir à votre dulcinée, l'emmener dans un endroit hors du commun, voilà. Hein, ma chérie, ce soir, je t'emmène dans un restaurant. Franchement, tu vas te régaler.
Déjà, Saint-Valentin, c'est pour bientôt.
Ah
donc,
ouais,
pourquoi pas?
La Saint-Valentin.
14 février.
Ouais, c'est pas
appelé,
c'est
réservé au Carré.
Ouais, absolument. Une petite dernière question, peut-être, Alain, avant de passer au français chinois?
Petite dernière question.
Je t'en prie.
Non, bah d'accord. Bah, on passe au portrait chinois. Alors, c'est bon, on y va. Alors, portrait chinois, est-ce que tu connais, Mohamed?
Du tout.
Eh ben, tu vas découvrir. C'est parti, je déclenche le chrono. Anna, c'est à toi.
Ok, chef Mohamed, si tu étais un jour, tu serais.
Lundi.
Si tu étais un métier.
Cuisinier.
Si tu étais un bruit.
Silence. Sérieusement,
j'ai pas bruit. Et si tu étais un aliment.
Un aliment? Filet de bœuf. Et tendrement. Bon.
Attention, Christophe, se mange. Ouais.
Si tu étais une sauce.
Poivre.
Une pâtisserie.
Paris-Brest.
Une voiture.
Arco.
Un aliment de cuisine.
Un aliment de cuisine?
Ouais.
Citrouille.
Matériel de préparation de cuisine.
Siphon.
Une épice.
Ouais, c'est un autre. Un mélange de tout.
C'était plutôt couscous? Ou paella.
Merguez.
Pas mal. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la suite. Et merci d'être venu nous faire du bien. Parce que c'est vrai que dans cette période un petit peu difficile, voilà, tu nous as fait du bien en nous faisant rêver. Et si vous voulez bien manger, les amis, c'est au Carré que ça se passe, du côté de Pavillon sous Bois. Le chef Mohamed Si Abdelkader était avec nous aujourd'hui dans les rendez-vous d'Anna avec Anna Guézard Bouakaz.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur le rendez-vous d'Anna de la semaine prochaine, Anna Guézard Bouakaz?
Alors, le rendez-vous d'Anna la semaine prochaine, on a beaucoup d'invités. Alors, la semaine prochaine, jeudi 16 janvier, le designer Amin Mrani, il est d'origine marocaine, basé à Londres, et c'est le créateur du caftan du Maroc. C'est un événement mondialement connu parce que il a lieu en Russie, à Londres, à New York, à Dubaï, ici à Paris chaque année. Ça se passe d'ailleurs à l'hôtel Georges V.
Ah oui.
Et donc on va parler mode, caftan, on va faire un petit peu le tour de tout ça la semaine prochaine.
Eh bien, merci beaucoup ma chère Anna, merci chef.
Merci à vous, bonne soirée à vous.
À très bientôt, dans un instant, on termine avec le zapping sur France Magazine de Le Grand. Grand Forum, merci d'être avec nous et merci encore une fois à Anna Guézard Bouakaz, son invité, qui nous a bien régalé. Franchement, on va y aller faire un petit tour dans son restaurant, le Carré, ça a l'air très très bon. Un monsieur très passionné de son métier et ça fait du bien en tout cas à voir. On a parlé cuisine et la semaine prochaine on parlera design. Voilà, avec les rendez-vous d'Anna que vous retrouvez toutes les semaines, sur France Maghreb 2. Merci de votre fidélité. On était aussi avec Philippe Bouriaki qui nous disait que c'était un petit peu tordu du côté de Saint-Lazare. Alors j'apprends là à l'instant, ça peut servir les utilisateurs des transports en région parisienne qui sont très rares et seules les lignes automatiques marchent normalement. La ligne 1 vient d'être interrompue, le trafic est totalement interrompu sur la ligne une qui est pourtant automatique. Je n'ai pas la raison, mais voilà, je vous donne l'information parce que ça peut éventuellement servir. Demain, on parlera, les amis, On parlera de l'Iran et de la situation du Moyen-Orient après la réaction de Donald Trump. Mais pour l'heure, on va passer au zapping, les amis, avant de se quitter, parce que faut nous aussi qu'on rentre, qu'on essaye de rentrer à la maison, bien sûr, hein, ce qui est pas facile. Avec aujourd'hui, pour commencer ce zapping, incident diplomatique à nouveau entre Paris et Rome. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. Que s'est-il passé? Voici ce reportage d'Euronews que je propose d'écouter.
Luigi Di Maio s'en défend, mais de Bruxelles, dimanche et ce lundi, c'est bien un incident diplomatique qu'il a déclenché avec ses propos sur l'Afrique et la France. Le vice-président du Conseil italien a accusé Paris d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire. L'ambassadrice italienne en France a été convoquée pour explication.
Je ne crois pas qu'il y ait un incident diplomatique. Je pense que tout cela est vrai. Le fait que la France est un de ces pays qui, parce qu'il imprime la monnaie de 14 pays africains, empêche le développement de ces pays africains et contribue au départ des réfugiés qui, après avoir traversé la Méditerranée, arrivent sur nos côtes.
Les déclarations du numéro 2 italien reflètent les relations de plus en plus mauvaises entre Paris et Rome depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie en juin dernier. Elle tombe en plus assez mal pour la France au moment où le système du franc CFA en vigueur dans la majeure partie de l'Afrique centrale et de l'Ouest fait de plus en plus débat.
Voilà pour ce qui est de cette brouille visiblement entre la France et l'Italie. On enchaîne dans ce zapping dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Direction la rédaction de RTL pour nous parler d'une tragédie qui s'est survenue hier. En effet, un avion en provenance de Côte d'Ivoire, on a retrouvé un enfant mort, un jeune enfant.
C'est une tragédie dont la victime est un enfant. Un garçon d'une dizaine d'années a été retrouvé mort hier dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy.
Un vol d'Air France en provenance d'Abidjan. La compagnie déplore un drame humain. Ces dernières années, plusieurs passagers clandestins ont été retrouvés morts de froid ou asphyxiés dans les soutes des avions, mais jamais il n'y avait eu de victime aussi jeune. Les dispositifs de sécurité existent, mais ils ne sont pas infaillibles, Pierre-Julien.
Lors de l'escale, le Boeing ou l'Airbus est évidemment surveillé. Des agents établissent une sorte de périmètre de sécurité, mais après avoir quitté le parking, l'équipage au roulage peut avoir du mal à discerner de nuit ce qui l'entoure. D'ailleurs, une voiture est en principe chargée de le suivre au cas où. Les équipages ont même pour consigne de ne pas s'arrêter, mais au moment du demi-tour pour s'aligner sur la piste, l'avion est à très faible vitesse. Il suffit alors d'être véloce, rapide, et un intrus peut arriver à s'accrocher au train d'atterrissage puis s'installer dans le logement des roues. Les pilotes n'auront rien constaté. Ils n'ont pour indicateur que les signaux vert, blanc puis éteint, prouvant que les trains avant et principaux sont bien rentrés et verrouillés. L'idée d'une caméra témoin avait été un instant envisagée et vite abandonnée. Ensuite, à 12 000 mètres d'altitude, à moins de 56 degrés Celsius, dans un endroit qui n'est ni chauffé ni pressurisé, le passager clandestin n'a pratiquement aucune chance de survivre. Il meurt de froid asphyxié. Il arrive toutefois qu'on découvre un miraculé, comme il y a 20 ans, à l'arrivée d'un vol Dakar-Lyon.
Incroyable cette histoire, évidemment. Si on nous avait dit qu'on serait un jour d'accord avec Caroline Forest, qu'on partagerait un seul avis de Caroline Forest, je vous aurais dit que ça relève de la cour du miracle. Mais là, on a trouvé, à propos d'Éric Zemmour, écoutez.
Éric Zemmour, je vais vous dire ma position. Moi, j'ai refusé régulièrement ces dernières années d'aller sur le plateau d'Éric Zemmour parce que je pense que la télévision n'a pas à encourager cette parole comme étant une parole normée. Je pense qu'Éric Zemmour a le droit de participer à des débats à égalité, qu'on peut débattre l'un contre l'autre, lui contre d'autres, mais qu'Éric Zemmour est un show à lui, sous son nom, où il reçoit des gens qui sont en fait ses faire-valoir. C'est ça qui me dérange. Je ne pense pas que cette pensée-là doit être confondue avec une pensée de l'accueil et du débat. Ça doit être une pensée parmi
c'est
d'autres.
C'est ce qui se passe
dans un cadre
sur une
de
chaîne
débat
d'info. Les invités qu'il reçoit sont des faire-valoir.
Oui, bien sûr, parce que c'est
ce
son
ne sont
show.
Pas des contradicteurs.
C'est son émission. À partir du moment où c'est son émission, c'est pour toujours. Lui est placé comme étant, au fond, la référence, le curseur avec qui tout le monde débat ou à qui tout le monde en veut. Ça ne peut que mettre en valeur, c'est pas un débat égalité.
Caroline Forest à propos de Zemmour et en parlant de ses invités qui sont les faire-valoir de Zemmour. On retourne manifestation 9 janvier à Paris, beaucoup de monde et une situation qui a dégénéré, Philippe Bouriaki.
Oui, tout à fait. Les premiers échauffourées, ça a commencé à place Augustin, pardon. Le début du cortège a été scindé en deux, bloqué sur Saint-Lazare et puis on ne sait pas pourquoi un des cordons des policiers s'est retiré. Ce qui fait c'est que les deux groupes se sont retrouvés et maintenant à Saint-Lazare, les sommations ont été données de dispersion avant l'utilisation de la force. Beaucoup de gens sont nassés dans des cafés bloqués. mais le secteur est hermétique. On ne peut pas sortir et plusieurs manifestants demandent à pouvoir sortir. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Et donc on assiste à des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, la BRAV qui intervient de manière assez virulente, et puis en retour, des jets de gaz lacrymogène et de temps en temps, des infiltrations. Ah là, là on a les forces de l'ordre qui sont en train de reculer rue du Rocher, juste devant la place de Saint-Lazare, juste devant la gare de Saint-Lazare. On a la BRAV qui recule, la BRAV, la brigade de répression, les voltigeurs, les anciens, c'est ça, les voltigeurs. Et on est vraiment dans un no man's land un petit peu bizarre où d'un côté on laisse passer les touristes qui sortent des grands magasins pour pouvoir prendre le métro, la ligne 14 ou les grandes gares à Saint-Lazare, alors que ils ne pourront plus sortir de cet endroit et on se retrouve en surnombre avec des gens qui sont en train de se balader avec leurs valises, avec leurs sacs de course et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Vraiment.
Fais attention mon Philippe, merci beaucoup évidemment et on suit ce qui se passe du côté de Saint-Lazare sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum. Hein. Merci mon Philippe.
J'ai pas tout entendu Christophe, mais oui on essaie d'être plus prudent. Mais on a été pris à partie plusieurs fois par des blocs qui reprochent aux médias de faire leur travail et ça serait de notre faute s'ils se retrouvent emprisonnés. Comme si on les obligeait à mettre quelque chose dans la main en direction des forces de l'ordre.
Ouais, d'accord, ok, super. Merci Philippe, bon courage à toi, fais attention à toi. Voilà. Allez, on termine ce zapping, messieurs, dames, par justement le bilan de Castaner, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, à propos des violences policières. Retour sur les faits avec ce reportage de RT France, ça commence à faire beaucoup pour le seul ministre Castaner.
10h, le vendredi 3 janvier 2020, Cédric Chouvia, 42 ans, livreur, est à scooter lorsqu'il est contrôlé par 4 policiers. Verbalisé pour usage d'un téléphone portable en roulant, le livreur filme et semble provoquer verbalement les forces de l'ordre qui l'interpellent pour outrage sans parvenir à le menotter. Plaqué au sol sans ménagement, il est victime d'un arrêt cardiaque et décède 2 jours plus tard. L'autopsie révèle une asphyxie et une fracture du larynx. Le 7 janvier, une enquête est ouverte pour homicide involontaire, un décès qui déclenche de vives réactions sur la toile.
Les images de l'interpellation de Cédric Chouvia sont sans appel. La violence des policiers lors de l'interpellation est indéniable. Combien d'images seront nécessaires afin que vous admettiez enfin la réalité des violences policières dans ce pays ?
Stupeur, Chouvia aurait eu le larynx écrasé au cours de son interpellation. On en est là ? Castaner et Belloubet vont-ils tout couvrir une fois de plus ?
Y aura-t-il enquête ? Un procès ? Justice sera-t-elle faite pour Cédric ? Comme il faut soutenir Aïssa Traoré qui demande justice pour Adama, il faudra soutenir la famille de Cédric.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, le soir de la fête de la musique, une intervention policière avec usage de gaz lacrymogène provoque un mouvement de panique. Plusieurs personnes chutent dans la Loire. L'une d'elles ne remonte pas. Après de nombreuses manifestations pour obtenir justice, le corps de Steve Maya Canisso est retrouvé dans le fleuve un mois plus tard. Jusqu'à présent, peu d'explications sont apportées à la mort du jeune homme. Le ministre de l'Intérieur conclut, je cite, « La vitesse d'intervention a primé sur l'analyse du policier responsable de l'intervention qui aurait simplement été muté vers un poste sans responsabilité dans l'attente des conclusions de l'enquête. » Le 2 décembre 2018, lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Marseille, Zineb Redouane reçoit une grenade lacrymogène alors qu'elle ferme ses volets. Malgré des soins, elle meurt le lendemain des suites d'un arrêt cardiaque au bloc opératoire. Pourtant, le 18 juillet 2019, près de 9000 policiers sont décorés, récompensés, soutenus par l'État alors que certains étaient encore soupçonnés de violence contre les Gilets jaunes. Petite précision, place Beauvau, ces distinctions seront retirées en cas de condamnation définitive. Pour l'heure, Amadou Koumé en 2015, Adama Traoré en 2017, Zineb Redouane et Steve Maya Canisso en 2019 et récemment Cédric Chouvia, les familles attendent encore des réponses sur la mort de leurs proches.
Voilà, terrible ce bilan et ce reportage très intéressant signé RT France pour ce zapping. Voilà qui termine et conclut cette émission. On se retrouve évidemment demain à partir de 16h avec demain Tariq Mami et Farid Tamsamani. On parlera évidemment en grande ligne de la situation au Moyen-Orient, de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Soyez là et fidèles au poste. Continuez à nous suivre sur les réseaux, évidemment France Maghreb 2, mais c'est aussi les réseaux du Grand Forum sur Twitter, le Grand Forum FM2 sur Facebook, Facebook Christophe Le Grand Forum, sur Instagram aussi Christophe Le Grand Forum. Et voilà, en tout cas, merci de votre fidélité chaque jour un peu plus. Bien sûr, on vous salue et vous retrouve demain avec le plus grand plaisir. Et puis soyez prudents, ça circule très mal ce soir à Paris. C'est le bazar total et pour les transports, on y ajoute que la ligne 1 est interrompue pour l'heure. L'une des deux lignes automatiques du métro parisien est interrompue. On va bien galérer ce soir pour rentrer. Bon courage à tous et à demain avec le plus grand plaisir sur France Maghreb 2 évidemment. Ce soir, vous retrouverez l'ami DJ Nabil qui vous accompagnera tout à l'heure pour une bonne partie de la soirée. Allez, on se quitte en musique avec un petit tour du côté des montagnes de l'Algérie et de la région de Kabylie avec Rabah Hasma. Salut tout le monde et à demain si vous le voulez bien dans un instant le journal de 18h avec Sophie Terrence. Vous saurez tout des dernières nouvelles de l'info.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.